VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Après le Burkina Faso et le Mali, la Côte d'Ivoire a été la cible hier d'une attaque djihadiste. Un commando armé faisant 16 morts dans la station balnéaire très populaire de Grand Bassam. Le premier attentat de ce type dans le pays. L'attaque terroriste a été revendiquée hier soir par Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se rendront demain à Abidjan pour exprimer la solidarité de la France. Les États-Unis ont de leur côté condamné fermement les attaques terroristes de Grand Bassam et déclarent se tenir prêt à soutenir le gouvernement ivoirien dans son enquête sur cette attaque odieuse, d'après un communiqué dimanche du porte-parole du département d'État, John Kirby. Cela dit, la vie a repris son cours normal à Abidjan aujourd'hui. Au micro de Jean-Roger Bion, le témoignage de Mme Odile Pohan, elle est psychopédagogue à Abidjan.
Oui, l'état d'esprit est très bon. Ce matin, nous avons vu des embouteillages partout et nous sommes tous au travail, la plupart. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire en des situations pareilles. C'est le moral qui va montrer qu'on peut surmonter. L'événement est certes dramatique, mais comment on le vit et comment on surmonte cet événement en continuant la vie. Et c'est ce constat qu'on fait aujourd'hui. Un peuple qui a connu une rébellion, qui a connu la guerre, après des élections, 3000 morts, je pense que ce peuple est suffisamment aguerri pour que face à des événements, on puisse encore montrer notre capacité de résilience. C'est ça qui est important, de pouvoir faire face et de continuer la vie en n'oubliant pas ce qui s'est passé, mais en prenant appui pour plus de sécurité peut-être.
Alors Madame Pohan, il y a eu du sang, de grosses frayeurs à Bassam. Est-ce que ce qui se passe actuellement avec les Ivoiriens, c'est de l'insouciance ou le sentiment que l'État a tellement bien géré la crise que la confiance est revenue, que la sécurité est garantie et qu'on pense à autre chose?
Vous savez, le mode opératoire a dépassé tout le monde. Ils sont venus, comme on le dit, par voie maritime. Et puis vous voyez qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chacun. Surtout, vous avez vu que c'est vrai, peut-être qu'il y a eu une part, on nous expliquera, parce que les hôtels qui ont été attaqués, je pense que la sécurité, quand on regarde, devait être mieux garantie parce qu'il y avait beaucoup d'Européens et puis c'était en fin de semaine. Mais je pense que quand vous allez vers la plage, sur la plage, et qu'on vous dit, bon, le nombre de morts par rapport à la présence massive des personnes, je pense qu'on peut se dire qu'on a eu quand même beaucoup de chance.
Un jour après, peut-on dire que les Ivoiriens ont vaincu la peur et qu'ils ne se sont pas laissés distraire par cette attaque?
La peur, elle vit en chacun. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, les gens ont quand même compris que le repli ou la fuite, ce n'est pas cela la solution. Mais c'est l'affrontement d'une situation, sa compréhension. Et on avait été averti. Vous savez, la période qu'il y a entre le moment où on vous dit on va vous attaquer, l'attente de cette attaque, et le moment où cela s'est passé. C'est comme si on se disait, ben, ils ont dit qu'ils vont attaquer. Bon, ils ont attaqué, on ne baisse pas la garde. Mais on a compris que c'était de la lâcheté. Ils ont attaqué, bon, on fait avec. C'est comme si on vous disait, on va vous faire ça, on va vous faire ça. Cette période est plus stressante que l'acte lui-même. Parce que là, vous vous sentez un peu quand même comme libéré. Oui, on vit avec, mais on surmonte et cela va montrer que le plus difficile dans cette situation-là, c'est l'impression d'insécurité que ça peut créer. Comme si on se disait qu'on était fragile, vulnérable à tout moment. Mais on va le surmonter comme on a surmonté les crises passées.
Madame Odile Pohan, psychopédagogue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Élection au Bénin, la Cour constitutionnelle béninoise a finalement confirmé le verdict des urnes en phase avec les tendances données par la Sénat, la Commission électorale nationale, qui annonçait un second tour au présidentiel entre Lionel Zinzou et Patrice Talon. Les précisions de Ginette Fleur Adandé, notre correspondante à Cotonou.
Lionel Zinzou, arrivé en tête du premier tour du scrutin présidentiel, sera face à Patrice Talon, classé deuxième. Ces précisions ont été données ce dimanche par la Cour constitutionnelle, qui aura pris son temps pour analyser les résultats et autres informations arrivées à son niveau. Théodore Olo, président de la Cour, lors de la proclamation des résultats. La balle électorale est donc remise au centre pour une seconde manche qui opposera le 20 mars Lionel Zinzou à Patrice Talon. Les candidats ont juste cette semaine pour convaincre les électeurs. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Élections législatives en RCA maintenant. L'issue définitive du premier tour des législatives du 14 février dernier est maintenant connue. La Cour constitutionnelle de transition a statué aujourd'hui à Bangui que 85 députés et non 46, comme l'avait annoncé l'ANE, l'Autorité nationale des élections, ont été élus dès le premier tour sur un total de 85 circonscriptions et non 94, le chiffre publié auparavant par l'ANE. Il reste donc 85 sièges à pourvoir.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise au Burundi, l'Union européenne a officiellement suspendu aujourd'hui son aide directe au gouvernement du président Pierre Nkurunziza en réponse aux violences qui secouent le pays et pour pousser les autorités burundaises au dialogue avec l'opposition. La décision attendue depuis l'échec en décembre des pourparlers inter-burundais réclamés par l'UE a été prise par les 28 ministres européens des Affaires étrangères de l'Union à leur réunion annuelle à Bruxelles. Avec une aide globale de quelques 430 millions d'euros, soit près de 450 millions de dollars, l'Union européenne est le premier donateur d'aide au Burundi. Et puis au Cameroun, plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier à Douala après le décès d'une femme enceinte dans un hôpital dans des circonstances non élucidées, ce qui a déclenché une polémique sur la prise en charge des malades. La mort samedi matin de Koumateke Monique, 31 ans, enceinte de jumeaux, a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, sa famille accusant le personnel soignant de l'hôpital La Quintini, un des plus importants de la capitale économique camerounaise, d'avoir refusé de la prendre en charge et d'être responsable de sa mort. La Guinée compte parmi les pays africains où il y a le plus d'infections au virus de l'hépatite. Le taux de prévalence est très élevé selon une récente étude. Des détails avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Les virus de l'hépatite sont tout aussi dangereux que le VIH-Sida. La Guinée n'a aucun programme de lutte. Jusqu'à récemment, la maladie n'était pas reconnue comme un problème de santé publique. Les seules statistiques sont les résultats des analyses du Centre national de transfusion sanguine.
Il y a 2 ans, le mot hépatite n'existait pas dans les statistiques sanitaires de la République de Guinée. Il y a un monsieur qui avait fait des recherches. Il avait trouvé 14,65% du virus de l'hépatite B chez les donneurs de sang.
Le docteur Abdourahmane Duria Diallo est l'un des deux spécialistes que compte la Guinée. Il est d'autant plus inquiet que les études classent son pays parmi les plus touchés.
Les statistiques africaines et internationales classent la Guinée deuxième pays touché au monde ou en Afrique après l'Égypte. Les études faites par des Africains nous attribuent 5,5%. Tantôt 9%. Donc ce qui veut dire que la Guinée serait touchée.
La Guinée touchée, il y a donc danger, s'alarme l'enseignant-chercheur. Le président de SOS Hépatite Guinée soutient que le risque est grand, d'où l'urgence d'une prévention.
On a obligatoirement besoin de dépister les cas d'hépatite B et C au niveau du personnel de santé. Et j'insiste sur le cas des femmes enceintes et des hommes en tenue.
Les hépatites A, B et C existent en Guinée, mais tous les facteurs qui aggravent aussi face à ce problème de santé, l'ONG SOS Hépatite Guinée informe depuis quelques années pour améliorer le niveau de compréhension sur la maladie.
Quels sont ses objectifs spécifiques ? C'est de contribuer à l'amélioration du niveau de compétences du personnel de santé à tous les niveaux par la formation continue. De contribuer au diagnostic, à la prise en charge et vaccination des groupes à risque selon le protocole international en vigueur.
SOS Hépatite Guinée est une association du personnel de santé, mais aussi des personnes malades, des malades comme ce jeune marié.
J'ai trop souffert avant de connaître que j'ai la maladie de l'hépatite B. Mes études, ma famille et mon boulot sont perturbés. Ma femme m'a quitté parce qu'elle pense que je vais la contaminer du cancer du foie avant de mourir. Je n'ai pas d'argent ou soutien financier pour aller me soigner hors de la Guinée.
L'hépatite E touche 20 millions de personnes chaque année dans le monde et on estime à 2 milliards le nombre de personnes infectées par le virus de l'hépatite B. Et parmi les cas graves, 1 million meurt chaque année. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Conflit en Syrie maintenant, des négociations indirectes entre le régime syrien du président Bachar al-Assad et l'opposition doivent commencer aujourd'hui à Genève en Suisse pour tenter de mettre fin à une guerre qui entre maintenant dans sa 6e année. À la veille de ces pourparlers, les chefs de la diplomatie française et américaine ont lancé un appel au respect de la trêve sur le terrain et à l'accès de l'aide humanitaire aux zones assiégées. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.